Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Pierre Jabot, assisté de Karen Dehaye, avec Serge Viguier et Stéphane Poitevin à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, en France, la création des conseils d'urgence citoyenne et la bonne résolution, c'est l'autogestion tout autour du monde.
Nul sans patron, 100% coton, 100% laine, 100% sans patron.
On est dans un état d'urgence? Non, il y a urgence à refaire état.
À l'entrée, c'est marqué que la résistance nous donne une étincelle.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent?
Comme un bruit qui court que la première de nos libertés serait la sécurité. Passons sur le fait que la liberté de nos devises est une et qu'elle ne se prête pas aussi aisément à des hiérarchisations, entre liberté de circuler, de s'exprimer, de penser ou même d'entreprendre. Mais ce mantra sécuritaire qu'on nous rabâche chaque fois qu'on veut nous faire avaler des couleuvres liberticides a le mérite d'être explicite. Laissez les grandes personnes se charger de l'ordre des choses, vaquez à vos activités malgré la peur injectée en dose quotidienne et habituez-vous au contrôle. De toute façon, vous n'avez rien à vous reprocher, n'est-ce pas? Sauf que malheureusement, la démocratie, même érodée, ça marche pas comme ça. Ça n'est pas chacun à sa place, mais chacun à sa voix. Pas juste les voix comptabilisées dans les soirées électorales pour faire disserter les éditorialistes, mais des voix qui s'expriment, qui proposent et qui se mêlent de ce qui les concerne au plus haut point, alors même qu'on ne leur demandait rien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer quelques voix comme celle-là, voix de celles et ceux qui veulent prendre leurs responsabilités, affronter la complexité du monde, même si gouvernants, communicants et marchands s'entêtent à vouloir tout baliser et tout simplifier. Alors pendant qu'en France, sous état d'urgence, certains lancent un manifeste pour des conseils d'urgence citoyenne, Antoine Chao, lui, nous emmène dans un petit tour du monde des coopératives d'autogestion, plein de bonnes résolutions. Comme un bruit qui court jusqu'à 17h sur France Inter, les citoyens ont des oreilles et des solutions.
Antoine Chao, Charlotte Berry,
qui vont-ils? Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Une bonne résolution pour l'année 2016. L'autogestion, pourquoi pas? Beaucoup se lancent dans l'aventure et la création de SCOP, Société Coopérative et Participative, est en pleine progression en France et pas qu'en France. Oui, alors la bonne résolution, c'est peut-être l'autogestion, ou comment travailler sans actionnaire et sans patron qui empoche bien trop de dividendes, de hauts salaires et de retraites chapeaux, pour plus de justice sociale, parce que l'économie du partage, c'est peut-être pas le modèle Uber Pop et Airbnb. L'autogestion, donc une valse à trois temps. On va partir à Cuba, à l'Organoponico de Alamar, une coopérative d'agriculture urbaine située à Alamar, à quelques kilomètres de la Havane, et qui est devenue, par la force des choses, la chute du bloc soviétique et l'embargo américain, une expérience exemplaire de production agricole en milieu urbain qui conjugue écologie et justice sociale. À Montreuil, à la boulangerie de la Conquête du Pain, une boulangerie bio-autogérée ouverte depuis septembre 2010, où une équipe de 10 personnes s'organise différemment pour ne pas avoir de patron, prendre des décisions lors des assemblées générales hebdomadaires et alimenter diverses caisses de solidarité pour soutenir des associations et des luttes. Et tout de suite, on file à Istanbul, à la coopérative de textile Kasova, un héritage de la résistance du parc Gezi du printemps 2013, rencontrer les sociétaires de la première coopérative turque qui fabrique des pulls en autogestion et qui résiste malgré le virage autoritaire que prend la Turquie d'Erdogan.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Patronsuz Kazak Özgür Kosova. Pull sans patron, Kosova libre. Kosova, c'est une usine qui produisait des pulls 100% coton. Et c'est une usine maintenant occupée par ses ouvriers. Et c'est une coopérative de textile autogérée. Depuis une année, les ouvriers travaillent et produisent toutes seules. Et ils partagent le revenu également.
Alors, Ezgi, il y en a beaucoup des usines comme ça, autogérées ici en Turquie?
Non, pas du tout. C'est la seule usine occupée et autogérée en Turquie.
La seule?
Oui, la seule. Il y a des autres coopératives de production, mais il n'y a pas d'usine occupée autogérée maintenant en Turquie. C'est la seule. qui a commencé au jour de Gezi, avec le support des manifestations de Gezi. Ils ont trouvé le courage, les ouvriers, de pouvoir obtenir les moyens de production et de produire les pulls et de les vendre dans les petits quartiers, des forums de quartiers qui sont, étaient aussi les fruits du mouvement de Gezi. Et avec la solidarité des mouvements sociaux, avec les mouvements qui ont créé Gezi, ils ont continué à survivre depuis plus d'une année. Ils sont à Istanbul et ils ont des petits stands dans les magasins, dans les différents magasins à Istanbul, plus de 15 magasins, dans plus de 15 magasins, ils vendent des produits et ils participent aussi des organisations, des foires autogérées, surtout en France, en Allemagne, en Angleterre et en Italie. Ils sont maintenant le membre d'un grand réseau de solidarité d'ouvriers qui travaillent dans les coopératives.
On est à Eyüp. Eyüp. C'est au bout de la Corne d'Or.
Alors la Corne d'Or, c'est ce bras de mer qui rentre dans la partie occidentale.
Oui, au milieu de la partie occidentale et qui sépare la vieille ville, la partie historique de la ville moderne.
Alors, combien d'habitants à peu près vivent ici à Istanbul, Damla ?
16 millions, je crois. Chaque district, chaque quartier d'Istanbul a certaines caractéristiques. Vous avez des quartiers plus ou moins kémalistes, des quartiers populaires, des quartiers de gauche, des quartiers islamistes, etc. Il y a quand même une sorte de division de la ville suivant les habitants et leur point de vue sociopolitique, leur appartenance sociopolitique. Ici, c'est un quartier islamiste.
Ici, c'est un quartier islamiste.
Ça a toujours été un quartier islamiste. C'est un vieux quartier en pleine rénovation. Ils sont en train de détruire les vieux bâtiments pour construire des trucs modernes, un peu moches à mon goût.
Ah, on est arrivé peut-être. C'est Kosova.
L'avenue de Medjilal, l'avenue des boutonniers.
Ah, c'est un quartier de tisserands alors ici, oui.
À l'époque, il y avait beaucoup d'ateliers de textile ici, oui. Là maintenant, ça disparaît de plus en plus, ça devient un peu plus résidentiel, surtout vers le bas. Mais là-haut, il y a toujours des petits ateliers qui font de la production textile. À l'entrée, c'est marqué « Kosova, que la résistance nous donne une étincelle ».
Il y a les photos de la lutte, là, accrochées au mur à l'entrée de l'atelier.
Ça date de quand ils avaient monté la tente devant l'usine.
« Kosova, que la résistance nous donne une étincelle ». Donc là, on rentre dans l'atelier et c'est Sarkan qui nous accueille.
Voilà, exactement. C'est Serkan qui nous accueille. Bonjour
voilà.
Serkan.
Bonjour. Comment ça se passe alors la production ici?
Patronun bizi 2013 yılında kapıya koymasıyla.
Ça a commencé quand le patron nous a mis à la porte en 2013.
O dönem 4 aylık maaşımız, tazminatlarımız verilmedi. Kapılar kilitlendi.
À l'époque, on n'avait pas été payé depuis 4 mois déjà. On n'avait pas eu d'indemnité non plus. Et ils ont refermé les portes devant nous.
Bütün işçi arkadaşlar ne yapacağımızı bilmiyorduk.
On ne savait plus en tant qu'ouvrier comment on pouvait faire des choses.
Meşhur olarak yapacağımız şey Taksim'de patronları isimlerini bağırıp deşifre etmekle başladık. 27 Şubat 2013'te başladı ilk.
Le 27 février 2013, on a été sur la place de Taksim pour crier haut et fort les noms des patrons au public. Après les événements de Gezi, on a eu beaucoup de soutien. Donc c'est grâce à eux qu'on a pu être debout.
Bizim kazaklarımızı sattılar.
Ils ont vendu nos pulls.
Geldiler bizim yanımıza yardım ettiler.
Ils sont venus nous aider.
Çadırda nöbet tuttular.
Ils ont attendu avec nous sous les tentes.
Bir yere gittiğimiz, bağırdığımız zaman onlar da yanımızdaydı.
Ils nous ont accompagnés quand on allait faire des manifestations.
Combien d'employés y avait ici?
94.
94.
72 gün sonra da artık hiçbir yerden bir netice alamayınca biz de fabrikanın içine girme kararı aldık.
Au bout de 72 jours, on a décidé de rentrer dans l'usine parce qu'on n'avait pas de réponse.
İşte içeri girdiğimizde zaten gerçeklerle karşılaştık. Yani darmadağın etmişler fabrikayı.
Quand on est rentré, on a vu la réalité que tout avait été déjà dispersé plus ou moins au sein de l'usine.
Mahkemesi bitti, satışı gerçekleşti. Biz bunları hiçbir kimseye sattırmadık, biz aldık.
L'huissier avait confisqué toutes ces machines et quand il y a eu la revente, on a acheté nous-mêmes les machines.
Ondan sonra bizim şimdi.
Donc maintenant c'est à nous.
O dönem hak mücadelesi veriyorduk. Patron bize bu kelek yaptı, ben paramı almak için.
À l'époque, on était en train de lutter pour nos droits. Le patron avait confisqué nos droits et nous, on était en train de lutter contre lui.
Et là, il y a tous les cartons de t-shirts qui sont là ou de pulls. Alors, ils sont bien enroulés.
Il y a c'est marqué patronsuz kazak, %100 coton, %100 yün, %100 patronsuz ürünler. Le pull sans patron, 100% coton, 100% laine, 100% sans patron.
Bıktım ben bu zulümden, bıktım ben bu zulümden. Osmanlı'nın elinden, Osmanlı'nın elinden. Aman aman elinden, yandım bak be zulümden. Ben ne ker ben biçerim, paşa alır elinden. Ben ne ker ben biçerim, aga alır elinden. Yine kurak vardı, yine kurak vardı. Hiç yağmur yağmadıydı, hiç yağmur yağmadıydı. Tohum toprakta kaldı, tohum toprakta kaldı. Mahsul hiç çıkmadıydı, hiç mahsul çıkmadıydı. Aman aman elinden, yandım bak be zulmünden. Ben ne ker ben biçerim, paşa alır elinden. Ben ne ker ben biçerim, hakka alır elimden.
Hashtag Kömürbrüy sur Montaner.
Le pull sans patron, 100% coton, 100% laine, 100% sans patron.
Köylüler birlik oldu, paşaya karşı durdu. Yavur imam vurdukça Osmanlı kaçar oldu. Köylüler birlik oldu, paşaya karşı durdu. Halk isyanı coştukça askerler kaçar oldu. Halk isyanı coştukça askerler kaçar oldu. Köylüler birlik oldu, paşaya karşı durdu. Yavur imam vurdukça Osmanlı kaçar oldu. Köylüler birlik oldu, paşaya karşı durdu. Halk isyanı coştukça askerler kaçar oldu. Halk isyanı coştukça askerler kaçar oldu. Yavur imam vurdukça Osmanlı kaçar oldu. Halk isyanı coştukça askerler kaçar oldu.
Comme un bruit qui court. L'autogestion, c'est la bonne résolution.
Sur France Inter.
Voilà, rue de la Beaune, à l'angle de la rue Jules Ferry, à Montreuil. La conquête du pain, boulangerie bio autogérée. Et voilà, il est 8h et la conquête du pain est ouverte. Alors les sandwichs là, qui sont là, hein, c'est ça, il y a le Marx, le Engels, le Bakounine, le Malatesta, le Angela Davis, le Emma Goldman, le Rosa Luxembourg et le Louis Michel. Voilà. Et là, tu mets en place hein, toute la production du matin.
Voilà, on est terminé de mettre en place tout ce qui est baguettes, pains spéciaux. Les viennoiseries vont être cuites dans à peu près 5 minutes. Et puis, à peu près dans une demi-heure, je vais commencer à moi mettre en place pour tout ce qui est sandwich et tout. Parce que le matin, on a un double boulot, on s'occupe de la boutique où il y a jusqu'à 11h30, il y a 60-70 personnes qui passent. Et en même temps, on fait les sandwichs comme on a un peu plus de temps. Merci.
La formule de la révolution russe, un sandwich, le Louise Michel, chèvre, pesto, tapenade de poivron, roquette et poivron grillé, le Emma Goldman, saumon fumé, Saint-Moray, aneth, roquette, le Rosa Luxembourg, thon, Saint-Moray, coriandre, échalote, roquette.
Alors nous on passe à peu près ici, je crois, c'est aux alentours de 5 tonnes de farine par mois, voire peut-être avec le boulanger, mais c'est à peu près 10 tonnes de pain par mois. Et par jour, en boutique, on passe à peu près 300 kilos, je crois. 300-350 kilos. Et à l'extérieur, 250-300 aussi. On a 50% qui se passe à l'extérieur, qui se divise sur les restaurants, les boutiques bio, Elisa Map. C'est un projet humain et politique. L'idée, c'était de se dire, il est double. Il était de se dire à la fois, on a envie de monter un truc, on soit une structure, qu'on soit chez nous et on puisse faire un peu ce qu'on a envie. On va aussi de voir, un, comment est-ce qu'on pratique les idées qu'on défend au quotidien réellement, quelles contradictions ça implique l'autogestion, et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, et aussi, comment est-ce qu'on peut utiliser ce truc-là comme un outil de lutte. Voilà, donc tu vois, c'est tous les tarifs sociaux, les travails locaux qu'on fait, tu vois, on se déplace, on fait des tables, on va faire des formations, on fait des interventions dans les écoles, et à chaque fois, on parle aussi politique. D'où, tu vois, on organise un repas de quartier, alors je sais pas si ça nous fait plaisir, que c'est sympa, mais dans la cité derrière, d'où les tarifs sociaux, d'où aussi le fait qu'on ait des caisses de solidarité, qu'on envoie du pain dans les luttes, on a envoyé à PSA, on en a envoyé à des Roms qui s'étaient fait vider d'un terrain qu'ils occupaient à Robespierre, on en a envoyé... aux gens du foyer, bref, on en voit tout le temps, quoi. Aux gens du foyer Barin. Et puis on participe à différents trucs. On a participé à la foire à l'autogestion, à notre comité d'organisation. On a été intervenant au festival Entropie à Grenoble, tu vois, etc. Quoi. On participe aussi à des trucs.
Là, c'est des baguettes qui arrivent.
Ouais, ça, c'est des baguettes au levain.
Alors là, il est 5h, mais toi, Pierre, t'es là depuis 3h, c'est ça?
3h30, moi, je commence.
Combien de tonnes de pain alors vous produisez ici?
Je sais pas, on fait à peu près 1,7 tonnes, 1,8 tonnes de farine. Donc en tonnes de pain, ça fait plus de 2,5 tonnes.
Par semaine?
Ouais. Bah, je te fais ça à la louche. Hein.
Alors comment elle s'appelle cette machine là? Ça c'est pour...
Ça c'est une diviseuse. C'est des lames qui remontent en fait. Peser à la main, ça va plus vite. Quand je dis, hein, on n'est pas nombreux, on travaille beaucoup.
Et tous coopérateurs?
Alors, actionnaires, ici, ça donne pas beaucoup de droits. Hein. Ça donne les droits sur la vente de la coopérative, sur l'achat de matériel lourd, on va dire, et des travaux importants. Par exemple, si on veut acheter un jour, on décide d'acheter une deuxième boulangerie, etc. Les coopérateurs ont un droit de veto, les salariés aussi. Mais ça donne par contre une responsabilité autour du projet. Et du coup, quand tu rentres, t'es pas automatiquement coopérateur. Tu rentres, ah, tu passes un temps et après, ça se passe bien, tu deviens coopérateur. Il faut que les gens, il y ait une période où ils arrivent, c'est le temps de s'habituer, de se familiariser, de voir si ça leur plaît.
Ah, ça s'improvise pas, hein, la boulangerie.
Bah non, tu peux pas devenir boulanger en 3 mois, c'est pas vrai. Les gens qui s'improvisent et tout, ils font une formation, hein, 3 mois après, ils disent, vas-y, je suis boulanger, je vais m'installer.
Ça, c'est des beaux pains levain, ça, quoi, ça, là?
Des beaux pains levain, ça, c'est pour... que du bio. Tous les pains ils sont bio aussi. Les pains, pas la viennoiserie et tout ça, mais le pain est bio.
Alors qui vient chez vous
qui vient chez nous Alors à la boutique c'est les clients du quartier. Donc t'as, ici t'as on est dans un quartier qui est un peu mixte. T'as d'un côté le quartier des Buttes à Morel qui est un quartier plutôt bobo où il y a pas mal d'artistes comme ça. Bon eux viennent tous. Et puis derrière vient aussi maintenant des gens qui qu'il y a derrière, il y a la cité Jules Ferry qui est en bas, il y a Lanoue là-haut, etc.
Les deux cités, Jules Ferry et Lanoue, c'est ça, oui.
Ouais, Lanoue, le Clos Français, Jules Ferry. Donc après, même chez nous, on a une clientèle qui est relativement mixée, en fait. Tout le monde en vient un peu parce qu'on est une boulangerie qui est pas chère, parce qu'on fait des tarifs sociaux, si t'as besoin, et parce qu'on est une boulangerie aussi qui est sur le trajet et qui est de bonne qualité.
Ouais, c'est une boulangerie de quartier, quoi.
Ouais.
Une baguette, là?
Ça, c'est des baguettes.
Bah, quand tu dis que vous faites des tarifs sociaux, c'est-à-dire?
En fait, si tu demandes ici, tu peux avoir des réductions. C'est-à-dire qu'en gros, tu demandes à un bénéficier, t'as droit à, on te file une petite carte et la carte, elle te donne le droit à payer la baguette 75 centimes et à des réductions sur tous les produits.
Alors, sur quels critères?
Aucun. Tu demandes.
Aucun.
C'est vrai, bon, on n'est pas des flics. Hein. Si les gens ils pensent qu'ils en ont besoin, c'est qu'à priori, ils en ont besoin. Alors, on n'est pas à la CAF, quoi. Si on va pas, tu vois, sur quels critères on devrait le poser, sinon, tu vois. On n'a pas à décider de...
Vous prenez vraiment les décisions en commun?
Ouais. On prend la décision en assemblée générale toutes les 2 semaines. L'autogestion, c'est adapté à tout. C'est une façon de fonctionner. Après, si ça marche à peu près, après, voilà, nager tous les 15 jours, il y a des mandats qui sont distribués, les gens doivent les tenir. Après, voilà, c'est pas forcément toujours... tu vois, bien sûr, ça marche pas toujours. Maintenant, on peut pas non plus dire que le système capitaliste soit de réussite. Donc bon...
forme d'organisation. Là, c'est quand même énormément de travail. Ça ne marche que parce qu'on fait ça collectivement. Enfin, individuellement, ça, s'il avait été porté vraiment que par une seule personne et que les autres ne s'en étaient pas emparés, ça aurait été un truc autoritaire. Enfin, ça n'aurait pas existé.
Ouais, bah après, ça s'appelle un patron, quoi. C'est ça,
voilà.
Ouais.
Ça existe que parce que les autres aussi, ils ont envie d'essayer. Flo, tu dégages les sacs, tu les mets derrière le petit pétrin. Les sacs vides, tu puisses poser les.
Et la conquête du pain, c'est quoi alors? Ça veut dire quoi?
La conquête du pain, c'est un bouquin de Kropotkin d'économie politique. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, la boulangerie. Puis c'était marrant en plus. C'est un bouquin qui théorise un peu le communisme libertaire. C'est pas mon bouquin préféré par ailleurs, mais. C'est une coopérative, la conquête du pain, là, c'est une coopérative qui essaye de tourner, de survivre, qui expérimente des façons de s'organiser un peu alternatives à la mesure de notre échelle et des réalités qu'on vit, c'est-à-dire des réalités du système dans lequel on existe. Et puis c'est aussi après des gens qui taffent dedans, quoi. Voilà, c'est pas un truc de ouf, hein. C'est une boulangerie, quoi. C'est une introduction intéressante au communisme libertaire. Et du coup, ça implique aussi savoir de quel côté de l'échiquier politique on se place, quoi. On n'est pas dans un truc alternatif ou à la gauche du PS. Nous, c'est pas comme ça qu'on se définit. On se définit comme des gens qui essayons vraiment d'avoir une pensée radicale. Après, dans les faits, on est avant et surtout une boulangerie qui fonctionne comme une boulangerie, qui a les mêmes contraintes qu'une boulangerie et qui travaille comme une boulangerie. Pour moi, l'autogestion dans le modèle actuel, c'est avoir des endroits qui puissent être implantés localement pour travailler aussi sur des luttes locales, qui sont des luttes sociales, ce qui est hyper important, parce que c'est ça. On fera pas moi, je suis un révolutionnaire, on fera pas la révolution avec des coopératives. Par contre, les coopératives peuvent être des bases pour ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je pense que c'est des expérimentations à petite échelle pour commencer à créer les embryons d'une structure, d'une société nouvelle. Mais à un moment ou à un autre, il y aura une phase de rupture. Et la phase de rupture, elle se passera comme elle doit se passer, quoi, comme le mieux possible. Mais bon, faut pas non plus être dans un truc genre aussi super mytho, genre nous, on est en dehors du capitalisme, c'est pas vrai. On est avant tout une boulangerie qui doit fonctionner avec les contraintes d'une boulangerie, aussi du système dans lequel elle vit, et on s'y adapte. On a des bases légales, on doit faire de l'argent, etc. Voilà. Mais on essaye de faire aussi d'avoir une vraie préoccupation sociale, écologique et de conditions de travail, d'appui à des luttes, etc. Dans la mesure de nos moyens.
Et hop, 25 baguettes dans le four là. 22 baguettes.
Deux à coups de scie électrique.
Changement d'ambiance, on est à Cuba, dans la coccinelle de Mariana, direction Alamar, banlieue dortoir à l'est de la Havane, pour rencontrer Camilo qui travaille à l'Organoponico. Cherchez pas, c'est un système de production agricole inventé à Cuba pour lutter contre la pénurie alimentaire.
Organoponico, Alamar. Ah, voilà.
Mira, es un, tu vois, una tierra
compartida, c'est un terrain partagé entre plusieurs personnes.
Es una cooperativa que se organiza para producir plantas ornamentales,
medicinales
y especies para
aussi des herbes
la cocina,
pour la cuisine
y
des
verduras
en tout
varias.
Genre.
Acelga, blette, tomate,
berenjena, aubergine,
cebolla, lechuga,
oignon, salade.
Varias cosas que están dentro de la cocina
cotidiana. Tout ce qu'on utilise dans la cuisine de tous les jours. Et qui permet de varier les repas.
C'est
en plus de ce qu'on peut avoir avec le carnet de ravitaillement ou de ce qu'on trouve dans les magasins de l'État. Cela permet de diversifier l'alimentation. L'État avait beaucoup de terres et au moment de la crise à Cuba, quand on a perdu les marchés privilégiés avec l'Union soviétique, il a fallu commencer à produire sur place. Il y a eu un partage des terres entre des particuliers et des gens qui étaient organisés en coopératives.
Y esta repartición de tierras tenía la intención de que toda tierra que estuviera sin utilizarse fuera utilizada para producir alimentos para la población.
Tengo una forma más de adornarte la vida. Buena sombra te cobija si es que a rebelde te arrimas. Si oyes este consejo, te voy a ver en chancleta, pues un clavo del destino ponchará tu bicicleta. Tengo una forma más de adornarte la vida.
Oye, rebelde,
buena sombra te cobija si es que a rebelde te arrimas.
Mi nombre es Camilo.
Moi, je m'appelle Camilo.
Soy el jefe comercial de la cooperativa.
Je suis le chef commercial de la coopérative ici.
UEPC Vivero a la Mar.
Vivero a la Mar, l'unité basique de production coopérative.
Tenemos muchas tierras.
On a beaucoup de terres ici.
Y verdaderamente se necesita aprovechar esos terrenos para lo que es el aprovechamiento del alimento de la población.
Il faut vraiment qu'on utilise ces terres pour nourrir la population.
Este es el área de lo que es decir, hierbas aromáticas.
Ici donc c'est les herbes aromatiques
y plantas religiosas.
Et les plantes religieuses.
Exactamente, para lo que para espantar.
Voilà, pour faire partir les mauvais esprits.
Sí, exactamente. La cooperativa fue creada el 29 de enero del año 1997.
Alors la coopérative a été créée en 1997.
Sí, y aún así, bueno, fue creciendo poco a poco.
Et elle a grandi.
Actualidad que tiene
de plus en plus.
Alrededor de 10 hectáreas de tierras y media.
Et là, aujourd'hui, donc, il y a plus de 10 hectares et demi.
175 travailleurs.
Et il y a 175 travailleurs aujourd'hui.
Ils travaillent, c'est ce qu'ils gagnent. C'est-à-dire tout ce patrimoine qu'il y a ici est de la coopérative.
Alors, tout appartient à la coopérative.
De la coopérative. Tout le patrimoine financier appartient à la coopérative.
Et le patrimoine financier appartient aussi aux coopérativistes.
Appartient à la coopérative. C'est-à-dire, à mesure qu'ils travaillent, Et se vendent leurs produits et sous salaire.
Donc les gens sont payés par rapport à ce qui est vendu, par rapport vraiment aux revenus qui sont créés par la ferme.
Directo.
Et on vend tout en direct.
La vente est directe à organismes nationaux.
La vente est directe ici aux organismes nationaux.
Tourisme.
Au tourisme.
Et à la communauté.
Et au quartier.
Aquí todo lo que se emplea es materia orgánica.
Donc on n'utilise que des produits biologiques.
No se emplea algún otro fertilizante.
On n'utilise aucun engrais chimique.
La mini industria. Esto aquí se procesa todo lo que es el producto.
Donc ici c'est l'atelier donc où on transforme beaucoup des produits de la ferme.
La conserva, ya sea mermelada, ya
on
sea.
On fait des conserves, on fait des confitures.
El apio, el perejil,
y se hace el l'oignon et on fait des condiments avec ça.
Condimentos secos.
Des condiments
para
séchés
à la population. Y a otros sectores de la economía del país.
Donc on le vend et à la population du quartier, mais aussi ça rentre dans les circuits de distribution nationaux.
UEPC Vivero La Mar.
La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Voilà, notre petit tour du monde d'initiatives en autogestion et en économie sociale et solidaire s'arrête là, pour aujourd'hui, bien entendu. Et maintenant, en France, avec Guy Ventil, on va se demander comment réarmer le débat citoyen dans l'étouffoir de l'état d'urgence.
Comme un bruit qui court !
C'est un projet de loi qui fait la part belle aux forces de l'ordre. Alors que l'état d'urgence pourrait prendre fin en février prochain, le gouvernement a souhaité prolonger des mesures d'exception.
Pour le gouvernement, il s'agit de donner à la police les outils nécessaires à la lutte antiterroriste.
Assouplissement de l'utilisation des armes des policiers.
Les perquisitions de nuit pourraient être autorisées.
Les perquisitions de nuit, les fouilles des véhicules.
Le contrôle d'identité et des fouilles de véhicules.
Élargissement des mesures d'assignation à résidence.
Les assignations à résidence facilitées.
Les sonorisations et la captation d'images de domicile.
D'intercepter tous les échanges téléphoniques et informatiques.
Dès le début de l'enquête.
Et la fouille des bagages pourrait accompagner tout contrôle d'identité.
Rétention pour contrôle d'identité sans la présence d'un avocat, etc.
Cette mesure d'exception que le chef de l'État veut graver dans le marbre de la Constitution est combattue par une partie de la société civile française. Il y a quelques jours, les opposants qui tentent de s'organiser pour se faire entendre ont d'ailleurs créé un comité de vigilance citoyenne.
J'ai adhéré à cette idée du conseil d'urgence tel que Cédric Tessier se présente, on en a parlé. Ça s'est passé un jour très important puisque je revenais.
Imaginez une réforme constitutionnelle menée un peu à la hussarde où une bonne partie de la majorité socialiste s'écharpe sur des mesures dont et le FN et Nicolas Sarkozy revendiquent allègrement la paternité. Manuel Valls a bien essayé de siffler la fin de la récré en déclarant que une partie de la gauche s'égare au nom de grandes valeurs. Sauf que même Jacques Toubon, depuis son bureau de défenseur des droits, met en garde sur le risque que cet état d'urgence ne modifie en réalité l'état même de notre démocratie. Alors oui, de plus en plus de voix s'élèvent contre le nouveau projet de réforme qui sera discuté en février prochain et qui veut prolonger des mesures autorisées par l'état d'urgence en dehors de l'état d'urgence. Et pendant que le rouleau compresseur continue d'avancer, des citoyens sans carte ni parti ont décidé cette semaine de poser les bases de conseils d'urgence citoyenne pour surveiller les surveillants. Venus des collectifs, ils ont un même mot d'ordre, lancer un Citizen Act contre ce Patriot Act à la française. Le débat est lancé et dans l'embrasure, on croise le comédien Nicolas Lambert.
Alors, on est avec Anticor, la revue Vacarme, on est avec Isabelle Attard, députée apatride. L'idée est de réussir à ce que plusieurs fractions de la société se réunissent et que cette parole-là puisse être audible et entendue. Effectivement, on est dans un état d'urgence. Non, il y a urgence à refaire état.
Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 558 pour 551 contre 6, l'Assemblée nationale a adopté.
Donc
Isabelle Attard, députée citoyenne du Calvados.
Vous avez fait partie des rares députés, des 6 je crois, qui n'ont pas voté l'état d'urgence au tout début.
Non, nous étions que 6 effectivement à ne pas voter la prolongation de l'état d'urgence. Je précise à chaque fois parce que le fait d'avoir l'état d'urgence dès le 13 novembre au soir, nous l'avons accepté et nous n'avons absolument pas lutté contre ça. Au contraire, c'est sur cette prolongation que nous l'avons refusé.
Qui maintenant court jusqu'au 26 février au soir à minuit.
Mais qui risque de se prolonger beaucoup plus longtemps, pour de nombreux mois. La mise dans un système ordinaire de cette loi d'exception, de cette loi d'état d'urgence qui normalement ne concerne que quelques jours, de façon à donner le temps à un état de réagir.
Et alors là, du coup, la réaction que vous avez avec d'autres ici, ce mercredi, c'est contre l'état d'urgence, création d'un conseil d'urgence citoyenne.
Oui, un conseil de vigilance et d'urgence citoyenne. Par ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, on s'aperçoit que le citoyen n'a évidemment pas son mot à dire, pas le pouvoir. Il l'a délégué à quelques représentants et puis c'est tout. Et des représentants qui n'ont même pas, eux, leur mot à dire. Je suis assez bien placée pour le savoir en tant que députée. Si encore nous avions un réel contre-pouvoir contre l'exécutif législatif, ce serait très bien, mais on ne l'a pas. Donc je compte sur les citoyens, en fait, pour se manifester, pour recenser les dérives de cet état sécuritaire. Je compte vraiment sur les citoyens pour reprendre le débat, pour créer des lieux où on va pouvoir discuter de ce que signifie état d'urgence, d'échéance de nationalité. Aujourd'hui, on ne peut pas se fier sur un sondage fait sur 1000 personnes.
C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'aujourd'hui, nos élus, nos responsables surfent sur cet unanimisme sondagier.
Vous imaginez, si nous faisions de la politique en nous basant sur un sondage, 1000 personnes interrogées qui ne disposent pas des arguments pour et contre et qui, comme ça, à la sortie d'un magasin ou à la sortie de chez eux, tombent sur quelqu'un qui va leur poser la question pour ou contre la déchéance de nationalité. Enfin, c'est ridicule. Si c'est comme ça qu'on prend les décisions, mais j'ai honte. Et j'espère que le gouvernement ne prend pas ses décisions en fonction d'un sondage sur 1000 personnes. C'est un jeu extrêmement dangereux d'apprenti sorcier. C'est bien trop sérieux. Nous sommes dans une situation extrêmement dramatique dans notre pays. Et on ne s'y prend pas comme ça pour lutter contre le terrorisme. On demande, nous, en termes de conseil de vigilance, avec les juges, avec les avocats, luttons efficacement contre le terrorisme aujourd'hui, au lieu de proposer des symboles. Mais ce n'est pas avec des symboles qu'on lutte contre le terrorisme, c'est avec des moyens financiers et humains dans les services européens de justice et de renseignement. C'est coordonner les services entre eux, puisqu'on a bien vu que c'était bien la cause de nos problèmes. Nous n'avions pas de coordination européenne, ni même de coordination à l'échelle de notre pays entre les différents services. Ces failles, on les voyait déjà avant le 13 novembre. Qu'a-t-on fait depuis le mois de janvier ? Nous avons renforcé la surveillance de mouvements citoyens, nous avons renforcé la surveillance généralisée de toute la population au lieu de concentrer nos efforts sur les mouvements terroristes, sur les mouvements djihadistes que nous connaissions. Tous ceux qui ont commis des attentats en janvier et en novembre étaient fichés. Ça fait froid dans le dos, finalement, de s'apercevoir que nous avions les moyens de lutter, que nous ne l'avons pas fait, et qu'aujourd'hui, on nous donne au Parlement un os à ronger qui a des chances de nationalité. Moi, je suis désolée, mais ce n'est pas avec ce genre de proposition à la fois démagogique, d'extrême droite et symbolique que nous allons lutter efficacement contre le terrorisme. Mais c'est de la politique au sens noble. Et ce sont ces lieux de politique avec un grand P que nous devons recréer en France. Prenons le sujet de l'état d'urgence et élargissons finalement à la position du citoyen dans notre démocratie et nous aurons fait notre travail pour redonner le pouvoir aux citoyens.
Je défendrai la réforme constitutionnelle parce que c'est une manière de protéger davantage les Français. C'est ça l'essentiel. Pas les petits débats politiques, pas les questionnements qui n'ont rien à voir avec ce que les Français demandent. Une réponse ferme, forte, face au terrorisme, et c'est celle que nous apportons depuis des mois.
Marine Le Pen, moi je l'accompagnais quand elle a été reçue par François Hollande et Manuel Valls après les attentats du 13 novembre. On a parlé dans le bureau du président de la République, on a fait cette demande de la déchéance de nationalité. C'est notre idée, oui, depuis des années, tout le monde le sait.
Donc Jérôme Kersinti, avocat de l'association Anticor, membre du syndicat des avocats de France.
Et vous faites partie, avec ces différentes casquettes, de ceux qui tirent la sonnette d'alarme sur l'institutionnalisation de l'état d'urgence.
Non seulement sur l'institutionnalisation de l'état d'urgence, mais on voit bien que ça va au-delà, puisqu'aujourd'hui, on transforme l'état d'urgence, chose exceptionnelle, en quelque chose d'ordinaire et de permanent.
Donc, l'état d'exception devient la règle.
Exactement. Vers un état policier, un état sécuritaire comme on veut, puisque la garantie des libertés publiques n'est plus assurée par un juge indépendant et impartial, au cœur du principe démocratique, mais d'une part par le ministère public, dont on sait qu'il n'est pas une autorité judiciaire indépendante, mais aujourd'hui par les préfets de police. Donc c'est une véritable dérive, un véritable changement de structure de notre État et de notre République.
Là, là, vous parlez en tant qu'anticorps, en tant que syndicat des avocats de France, mais il y a aussi ceux qui ne peuvent pas parler, mais qui pourtant se sont exprimés par des tribunes parce qu'ils sont tenus par le devoir de réserve. C'est par exemple les juges administratifs, ceux qui gèrent les assignations, qui gèrent l'état d'urgence et qui, eux aussi, tirent la sonnette d'alarme.
Oui, et d'ailleurs, nous sommes très contents puisque ce collectif de juges administratifs du tribunal de Paris nous rejoint dans la création de notre comité ou conseil d'urgence citoyenne. C'est dire que c'est une préoccupation d'abord des citoyens. Et nous disons aux citoyens, bien sûr que la peur peut, d'une manière spontanée, vous dire que ces lois sont bénéfiques. En réalité, à partir du moment où on change de régime et où on vous fait prendre conscience que vous n'aurez plus de recours contre des décisions policières injustes et inéquitables, et il y en a déjà eu, on va donc priver le citoyen, tout simplement, de sa capacité à s'opposer. Et donc, on est dans une situation qui va risquer de créer de l'injustice. Injustice juridique, injustice sociale, injustice de vie, tout simplement. Mais surtout, imaginons que ce soit Marine Le Pen, pour ne pas la nommer, qui soit la prochaine présidente de la République en 2017 ou en 2022, elle aura un dispositif législatif dont elle pourra dire « ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué, j'ai entre les mains les lois de la République. C'est la République qui, aujourd'hui, me permet d'appliquer ce que vous appelez, vous, un état d'exception ou un état totalitaire. » Et nous disons aux citoyens « réunissez-vous dans des comités locaux, parlez, échangez, et proposer, et c'est vrai que notre structure, entre guillemets, va permettre peut-être un débat qui est celui de comment le citoyen doit se réapproprier la chose publique, le débat public, se réapproprier la politique.
C'est ça, c'est donc pas un rassemblement de gauchistes anti-gouvernementaux.
C'est tout sauf ça, c'est d'abord un rassemblement de républicains. Nous sommes tous divers dans ce collectif, dans ce comité. Nous pensons les choses relativement différemment sur un certain nombre de sujets, mais nous pensons tous la même chose, c'est que la République, chose publique, res publica, est en danger. Et ce danger-là, il doit concerner tout le monde. Et il doit d'abord concerner les citoyens. Pourquoi les citoyens aujourd'hui votent le Front National? Pourquoi les citoyens ne vont pas voter? Parce qu'ils ont le sentiment que les politiques ne les entendent pas ou qu'ils ne sont pas entendus par les politiques. Et donc ce sentiment d'impuissance doit devenir une revendication de puissance et de pouvoir. Et il faut faire levier sur les pouvoirs institués qui finalement aujourd'hui ne nous entendent plus.
Perquisitionner de nuit n'est possible que sur décision d'un juge d'instruction. Aujourd'hui, la fouille d'un véhicule nécessite l'accord d'un procureur. Le projet de loi gouvernementale envisage de faciliter le travail des policiers dans la lutte antiterroriste.
Alors, je suis Sophie Vanich, directrice de recherche au CNRS en histoire et spécialiste de la Révolution française. Je suis au comité de rédaction de la revue Vacarme, autour d'une démarche qui s'appelle « Tenons et Mortaise, un monde à faire venir ». C'est dans ce contexte de discussion et de retour à la Révolution française comme point d'appui pour réinventer quelque chose, réimaginer, ça ne veut pas dire de reproduire, mais de réimaginer à partir de ce point d'appui, qu'on est entré en contact et qu'on avait commencé à élaborer. Et les événements du 13 novembre sont arrivés là-dessus, et donc on a poursuivi et on est arrivé à cette idée.
Alors cette idée, alors comment on peut la présenter ?
À la fois de considérer qu'il y a nécessité de ne pas laisser transformer la Constitution dans un sens encore plus autoritaire, parce que la Constitution de la Ve République est déjà très autoritaire et c'est un tournant encore plus fort, mais de considérer qu'il ne suffit pas de ne pas avoir l'état d'urgence pour que la situation soit satisfaisante, justement. Et donc, c'est le moment de réfléchir à notre régime politique collectivement, où on va et qu'est-ce qu'on souhaite.
C'est ça, c'est saisir l'état d'urgence pour poser d'autres urgences.
Voilà, c'est faire en sorte qu'il y ait des lieux s'ouvre quand les gens ont un doute sur ce qui est en train de se passer, qui peuvent être inquiètes à juste raison sur des questions de sécurité, mais qui veulent en débattre parce qu'ils sentent que quelque chose va trop vite et ne correspond pas nécessairement à ce qui peut être attendu d'un pays qui se prétend démocratique.
Les peines encourues seront alourdies pour les trafiquants d'armes. En plus de la légitime défense, les forces de l'ordre bénéficieront d'un allègement des règles sur les questions de la légitime défense.
Autrement dit, la possibilité de mettre hors état de nuire un individu dangereux.
Ce texte prévoit aussi la réduction du rôle des juges d'instruction au profit des préfets.
Des pouvoirs donnés aux forces de l'ordre et aux procureurs qui marquent un tournant dans notre arsenal juridique. Agir en urgence plutôt qu'avoir recours aux juges.
Alors, je suis Séverine Tessier, cofondatrice de l'association Anticorps. Anticorruption, cette association est née en 2002 et aujourd'hui constitue un réseau des groupes de citoyens et des personnalités. L'idée étant bien sûr, au-delà de la lutte anticorruption, de s'attaquer aux abus de pouvoir. L'abus de pouvoir étant finalement la matrice de cet état d'urgence qui va être constitutionnalisé et donc de soulever une question de démocratie. Donc c'est une question qui est de très grande importance parce que tout se passe comme si on changeait de régime, en fait, à l'instar de l'état d'urgence. Et là, c'est un peu ce qui s'opère sous nos yeux, alors que nous sommes normalement décideurs en tant que souverains. Et donc là, c'est l'urgence qui fait loi, y compris la déchéance de nationalité qui fait tant débat aujourd'hui et qui est une façon de gadgetiser, en fait, le problème, parce qu'en fait, on ne discute plus du principe même de l'état d'urgence, mais uniquement de son application, de ses modalités. Donc c'est quand même une façon très abusive d'aborder ce débat qui, nous souhaitons, finalement, peut être l'occasion aussi de poser d'autres questions plus fondamentales sur la démocratie. On voit bien par quels moyens, finalement, le gouvernement, pas seulement François Hollande, mais il y a une majorité derrière ce choix, tend à empêcher les contestations des projets économiques et sociaux à travers l'état d'urgence, empêcher les manifestations notamment, alors qu'on ne va pas fermer les centres commerciaux qui sont aussi des lieux de rassemblement et donc potentiellement exposés aux risques terroristes.
Alors à quoi ça peut ressembler ces conseils citoyens ?
Nous allons déployer les groupes locaux, donc des conseils de citoyens, de rassemblements de personnes, de bonne volonté, qui en même temps veulent dénoncer, résister et conquérir des droits nouveaux. Alors ça va prendre des formes comme aujourd'hui de débat. Par exemple, un pouvoir citoyen qu'a institué Anticor est celui des jurys de citoyens pour décider de l'attribution de subventions associatives, qui est un facteur de corruption, de clientélisme. On pourrait l'imaginer dans plein d'autres domaines. On sait aussi que la démocratie est très restreinte aujourd'hui, par exemple. Les conseils d'usagers du service public n'ont qu'un pouvoir consultatif. Il nous appartient de conquérir la maîtrise de la gestion des eaux pour éviter justement l'emprise des multinationales sur le secteur énergétique. Ça, c'est des choses qui sont à notre portée, qui sont très concrètes. On imposerait ainsi un débat sur le pouvoir et ce serait le meilleur moyen pour les citoyens de se réapproprier ce qui leur appartient en réalité et ce qu'on veut leur confisquer. La démocratie, disait Mendès France, ne consiste pas à mettre son bulletin dans l'urne et à se désintéresser de la vie publique jusqu'au jour où finalement on va à nouveau être convoqué aux urnes et sanctionner la politique qui a été conduite. Non, la démocratie, c'est exercer un pouvoir continu. Et donc c'est très ambitieux forcément, mais c'est l'idée quand même de dire nous reprenons notre pouvoir.
Enfin, les conditions d'emploi des armes par les policiers et les gendarmes seront précisées pour leur permettre d'intervenir en cas de périple meurtrier, lorsqu'ils font face à des individus qui ont tué et qui s'apprêtent à tuer encore. C'est l'état de nécessité. Et c'est ce que les Français également veulent que les services puissent accomplir.
Je suis à la Bressie, un ancien magistrat. Et là, aujourd'hui, je ne comprends pas très bien pourquoi ce texte sur l'état d'urgence. Je constate que les 3000 perquisitions qui ont été diligentées en France n'ont pas donné lieu à beaucoup de saisines du parquet antiterroriste.
Il y a deux enquêtes en cours à ce jour.
Deux enquêtes en cours sur 3000 perquisitions. Donc, on est en droit de se poser des questions sur l'efficacité de cette démarche. Pour le reste, je constate qu'il va y avoir une réforme du code de procédure pénale qui va donner beaucoup de pouvoir à la police, au préfet, donc au ministère de l'Intérieur, et encore une fois, les magistrats du siège, c'est-à-dire ceux qui sont indépendants, qui n'ont pas à recevoir d'ordre du pouvoir central, eh bien, sont mis à l'écart. Je vois que les procédures qui sont en train d'arriver privent le citoyen de ce caractère contradictoire, de la présence de l'avocat, et puis, comment dirais-je, de l'autonomie et de l'indépendance du juge. Je ne comprends pas le pouvoir actuel, je ne le comprends pas, car nous avons un texte, l'état d'urgence, nous avons des procédures pénales qui nous permettent de faire le travail. Certes, il faudrait quand même plus de police judiciaire, plus de magistrats, plus de greffiers, c'est une évidence. Et nous pourrions répondre sans avoir une loi d'exception.
C'est ça, c'est que vous, sous l'aspect juridique, les autres intervenants, que ce soit sur l'aspect de la corruption, ou l'aspect simplement politique, ou politique économique, vous constatez tous, c'est ce qui fait vous retrouver autour de cette table, une érosion de la démocratie en France.
et qui est accentué encore avec cet état d'urgence.
Voilà. Alors, je pense que le terme d'érosion est tout à fait vrai. Ça fait longtemps que cette érosion a commencé. C'est une grande histoire, en fait. C'est une grande histoire. Mais elle était lente comme une tumeur. Lente jusque à la fin du XXe siècle. Il y a eu le tournant du XXIe siècle qui est assassin, qui est complètement assassin, car la justice n'est plus là et que le citoyen n'a plus le droit d'avoir recours au juge. Eh bien, que lui reste-t-il? Eh bien, pas grand-chose. Et je constate que, au nom de ce qui s'est passé le 13 novembre, eh bien, on voit un abaissement du droit. Et à mon avis, c'est le grand triomphe de Daesh. Que d'imposer par les bombes des changements dans les sociétés et d'attaquer notre way of life. Et c'est génial. Vraiment, je serais islamiste, je dirais, quel triomphe! La France entière est à genoux devant nous et va inventer des lois de plus en plus répressives où les citoyens vont perdre de plus en plus de liberté, mais c'est notre triomphe. Chaque fois qu'on attaque le parlementaire et le judiciaire, on perd en démocratie.
Alors, mesdames et messieurs, qu'attendons-nous pour s'indigner? Qu'attendons-nous pour nous faire vivre ces si belles vérités que l'on chanterait en liberté? Seule l'addition de nos faiblesses feront la force de cette union. Nous sommes seuls rois de nos destins, et si la France est notre royaume, nous reprendrons ce vieux château. J'ai fait le rêve d'une autre France, qui serait le berceau de la tolérance. Comme un flambeau qu'on brandirait, une terre nouvelle nourrie de chance. J'ai fait le rêve d'une autre France.
Et si la déchéance de nationalité était une mesure moins clivante qu'annoncée?
Alors bien sûr, je comprends bien que certains cèdent à la panique. À force de crier au loup à travers ce tube cathodique, j'entends ces chants pas catholiques. Rendons utile toute cette colère pour qu'elle transforme nos quotidiens. Et que l'on s'aime, que l'on s'haïsse, nous vivrons tous le même chemin que d'autres appellent le 18 juin. J'ai fait le rêve d'une autre France, qui serait le berceau de la tolérance. Comme un flambeau qu'on brandirait, une terre nouvelle nourrie de chance. J'ai fait le rêve d'une autre France.
Cette même inquiétude a mené à la création mercredi d'un conseil d'urgence citoyenne, un collectif éclectique regroupant avocats, universitaires, artistes. On appelle les citoyens à établir des cahiers de vigilance et de propositions.
Il y a un mail, vigilance urgence citoyenne, tout attaché, au singulier, @gmail.com.
N'avons-nous pas bien d'autres rêves que les cauchemars qu'on nous propose? Pour cette France emprisonnée dans ses mouvements par son arthrose et qui fracture le grand changement. En petits pas anecdotiques qui font le bonheur des fanatiques de cette malade république, je lance ces mots à cœur perdu comme une goutte dans l'océan. En espérant qu'Avaz m'entende, nous savons tous que ce pays peut être de loin la plus belle rose, mais asséchée par nos tourments, elle finira par se faner. J'ai fait le rêve d'une autre France, qui serait le berceau de la tolérance. Comme un flambeau qu'on brandirait, une terre nouvelle nourrie de chance. J'ai fait le rêve d'une autre France.
État d'urgence, comité de vigilance citoyenne.
C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux. Juste après les informations, vous retrouvez Jean-François Zigel pour la preuve par Z. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.